pratiquement 19h. Bonsoir à tous, ravi de vous retrouver pour passer ce week-end dans votre compagnie.
Putain,
ils veulent avoir leurs examens en fin d'année, c'est mieux de les réviser. Parce qu'il n'y aura pas d'examen en chocolat. Voilà.
Pension de retraite, pourquoi cette faible revalorisation
de la part du gouvernement ?
Offres d'emploi pullulent sur le réseau de Pôle emploi.
Une question de santé publique et donc économique qui intéresse les entreprises.
La procédure fait intervenir un huissier qui vient notifier l'expulsion avant démolition.
Oui ou non, interdire le burkini,
un cas de connerie, cette fois si c'est sûr, je l'éteins là, je l'éteins la télé, même je l'éteins à tout jamais, tu vas voir ce qu'elle va voir, c'est qui.
Oh René, tous les vendredis c'est pareil, une télé explosée, hein. La plus rebelle des radios, la plus rebelle des radios. Wow.
Bonsoir, vous êtes sur Radio Canu, c'est l'heure du Canu Info. Et donc, dans ce Canu Info, aujourd'hui, on va vous commencer par vous parler de Jacques Chirac et du fameux écran de fumée autour de sa mort. Voilà.
Ou comment les médias n'ont pas parlé hier d'une catastrophe chimique de première importance. Alors, on va vous en parler. C'était l'incendie, donc hier, toute la journée jusqu'à ce matin, de l'usine Lubrizol à Rouen.
Et puis, bonne nouvelle aujourd'hui, peut-être enfin la PMA pour toutes.
Et ensuite, on parlera d'un truc assez étrange, puisque c'est des agresseurs qui portent plainte pour diffamation.
On enchaînera dans notre habituelle rubrique nucléaire et on vous parlera des rapports de l'ASN qui seront enfin reconnus juridiquement, peut-être.
Et puis la lutte des femmes de chambre ici, ailleurs, depuis toujours, petite analyse de ces luttes.
Ensuite, on vous passera une petite revue de presse du week-end dernier et du début de semaine.
C'est Dépêche sur Arte Radio d'Olivier Minot et on est allé piller également Radio Parleur. Et si on a le temps, on parlera du jugement qui a eu lieu aujourd'hui à Pau pour 3 militants qui ont été arrêtés dans le cadre des manifestations qui avaient lieu à la fin de l'été, c'était fin août, à Biarritz pendant le dernier G7.
On finira bien sûr par le traditionnel agenda.
C'était jeudi sur toutes les chaînes d'info hier donc en France et ces chaînes d'info jusqu'à la fin de matinée couvraient l'incendie qui faisait étouffer l'agglomération de Rouen en vallée de la Seine dans l'ouest français. C'était jusqu'à l'annonce de la mort de Jacques Chirac. Aujourd'hui, vendredi, c'est un peu moins pire. On a reparlé de l'incendie chimique de Rouen dans les médias, mais quand même un peu moins que de Jacques Chirac, notre ancien merveilleux président. L'histoire commence donc hier matin.
À 15 km de Rouen, l'air est irrespirable. Il tombe une pluie au dépôt noirâtre, on se sent complètement abandonné.
Sur tous les écrans, sur toutes les ondes, les messages de ce type se multiplient accompagnés d'effrayantes photos des effets de la pluie d'hydrocarbures rouennaise. Mais l'actualité des écrans tourne vite. Le vrai drame de jeudi, c'est donc produit à 11h58. Louis Laforge, présentateur de France Info, dans un tweet écrit.
Quand, en direct à 11h58, en pleine édition spéciale sur l'incendie de l'usine Lubrizol, on me glisse dans l'oreille « Chirac, une autre journée commence ».
Alors, oui, oui Louis, une autre journée commence pour les télés et les radios. Par contre, la journée de centaines de milliers de personnes touchées par les retombées de l'incendie, elle se poursuit. Mais a priori, plus personne, en tout cas dans les conférences de presse, ne s'en soucie. À l'antenne, un présentateur télé nous informe.
On va peut-être parler un peu moins de l'incendie.
Oui, en fait, en réalité, on va plus du tout en parler. Pendant des heures, les chaînes d'info ne consacrent donc plus un mot, plus une image, même pas un bandeau, à une catastrophe écologique que l'on peut d'ores et déjà dire majeure. La palme du cynisme revient sans conteste, et c'est souvent en effet les meilleurs, aux 13h de TF1. À Rouen, un reporter interroge ainsi le ministre de l'Intérieur Christophe Castaner, qui s'est déplacé pour aller voir les pompiers et pour vérifier, pour certifier à la population l'absence de danger. Et ce journaliste, alors qu'il y a un panache de fumée toxique au-dessus de Christophe Castaner, il lui demande ce que Christophe pense de Jacques Chirac, bien sûr. Et alors partout, tout le temps, il n'y en a que pour ce président mort.
Quand Jacques Chirac promettait de se baigner dans la Seine.
C'est ce que rappelle BFM TV, oubliant qu'un désastre industriel est justement en train de polluer la Seine. Ou alors...
Comment la pomme a changé le destin présidentiel de Jacques Chirac.
C'est ce que se souvient là encore BFM TV, sans jamais s'inquiéter des pluies d'hydrocarbures qui risquent de changer le destin des producteurs de pommes normands, les bien connus. La préfecture de la Seine-Maritime recommande d'ailleurs aux agriculteurs...
de rentrer leurs animaux, sécuriser leur alimentation et de suspendre les récoltes.
Alors c'est presque drôle, quoique la seule chaîne qui parle un peu de ce qui se passe à Rouen et 35 km autour, c'est la chaîne spécialiste des paris de PMU, la chaîne Equidia, qui publie d'inquiétantes photos de flaques d'hydrocarbures qui ont été prises dans un centre équestre. Sur CNews, sur LCI, sur BFM TV, la géographie de Jacques Chirac se poursuit non-stop. On salue notamment un président
qui aimait passionnément les Français dans leur diversité.
Ça, c'est la voix de Jean-Michel Apathy. Et puis, à la rigueur, on oublie
le bruit et l'odeur
qu'il reprochait aux immigrés polygames ou les condamnations de Jacques Chirac pour abus de confiance, détournement de fonds publics. La fine fleur des connaissances de Jacques Chirac est alors convoquée sur tous les plateaux, devant tous les micros. L'irréprochable François Fillon vient notamment témoigner de sa peine sur BFM TV. LCI, pour sa part, rend hommage à la passion de la...
bonne chère.
Eh oui, ce sont les mots qui sont employés, la bonne chère de Jacques Chirac, et BFM TV vante le
plus gourmand des présidents.
Eh oui, hein, ça c'est de l'information. Tout le monde répète jusqu'à l'indigestion son goût pour la tête de veau. Mais là encore, personne ne s'interroge sur les communiqués contradictoires des autorités qui recommandent d'abord aux habitants de Rouen de laver soigneusement fruits et légumes dans leur région, et puis ils se rectifient un petit peu.
Il faut attendre les recommandations de la préfecture avant de consommer les produits de votre jardin.
Voilà, donc il faut bien laver, quoique il ne faut peut-être pas manger non plus. Alors quand même, une phrase et quelques chiffres pour conclure, une phrase assez représentative de l'attitude des médias hier sur cette catastrophe chimique en région rouennaise. La palme peut-être au journal papier gratuit et en ligne 20 minutes, qui titre quand même, sans doute un titre soufflé par la préfecture, « Un nuage de fumée un peu toxique, mais pas trop, traverse les hauts de France ». Ce n'est pas Groland, c'est bien 20 minutes hein, qui titrait ceci. Et puis, deux, trois chiffres. Hier soir, hein, sur le journal de France 2, il y a eu 83 minutes qui ont porté sur la mort de l'ancien président Jacques Chirac. L'incendie à Rouen, ça a été couvert pendant une minute. Et zéro minute pour un prof des écoles qui s'est suicidé. Alors, on va revenir avec vous sur ce qui s'est passé hier à Rouen, autour donc de cette catastrophe industrielle de l'usine Lubrizol, qui est située à 303 km du centre-ville de Rouen. Et on va reprendre des éléments qu'on a trouvés dans notamment un article du Monde qui a enfin fait son travail de journalisme aujourd'hui.
Et oui, et donc, c'était jeudi, donc hier, un panache épais, noir comme une fumée d'enfer, a surpris ses habitants et ses habitantes au lever du jour. Un nuage noir de 22 km de long sur 6 de large a survolé tout le nord de la ville et rôdé sur la capitale normande jusqu'au milieu de l'après-midi, avant d'être chassé par le vent. Pour ceux qui n'avaient pas entendu retentir les deux sirènes vers 7h30, cette chape lugubre annonçait donc la catastrophe nocturne, l'incendie de Lubrizol. L'usine chimique est posée depuis 1954 sur les quais de la zone industrielle au bord de la Seine, à 3 km du centre-ville. Donc, un paysage d'usine et de raffinerie où les cheminées brûlent et restent éclairées toute la nuit. Dans la nuit de mercredi à jeudi, d'énormes flammes ont ravagé cette usine chimique sur la rive gauche de la ville. Lubrizol fabrique et commercialise des additifs qui servent à enrichir les huiles de moteur, carburant et peinture industrielle.
J'ai d'abord entendu des bruits secs vers 2h30 du matin. J'ai cru qu'il y avait une bagarre. C'était en fait des explosions.
Donc, 10 minutes plus tard, à 2h42, un dépôt s'embrase. Peu après arrivent les premiers gyrophares des pompiers qui ne maîtrisent que vers 11h le gigantesque incendie, traitant l'immense flaque d'hydrocarbures comme un feu de pétrole. Il ne sera totalement éteint que le vendredi, donc 27 septembre, en tout début de matinée, donc c'était ce matin. L'enquête judiciaire lancée dès jeudi devra tenter de comprendre comment et pourquoi des fûts de stockage d'huile et d'additifs ont pris feu cette nuit-là.
Après l'incendie et pendant des heures, une étrange pluie noire s'est alors abattue, drue et huileuse sur la région rouennaise. Elle a lentement irisé les pavés glissants des rues piétonnes de Rouen, tandis que les voitures en stationnement se couvraient de sales traces noires. Et ceci, pas seulement en ville. Tout autour de la capitale normande, des abris, des tables d'extérieur, des toboggans se couvrent de suie. Des flaques noirâtres fleurissent un peu partout dans les rues, les jardins et sur les réseaux sociaux. À 35 km de Rouen, les bassins de récupération d'eau de pluie semblent comme tous mazoutés. Alors, Rouen est une ville industrielle où, par temps de brouillard humide, les habitants et habitantes ont l'habitude de renifler des odeurs d'hydrocarbures. On est dans la vallée de la Seine, entre Paris et la Manche, et donc on y a notamment installé tout un tas d'industries pétrochimiques. Mais cette puanteur acre-là s'est emparée de toute la métropole et de manière beaucoup plus intense. Ça ressemble d'abord, selon les témoignages qu'on a pu récolter là-bas, à des remugles de plastique brûlé ou de solvant. Et ensuite, ça tourne un peu à l'odeur d'œufs pourris lorsqu'il y a les premiers souffles de vent. Ça pique la gorge des automobilistes, mais pas que, et des passagers qui débarquent par exemple à la gare. Étrange ambiance donc. La préfecture de Seine-Maritime a mis en place un plan particulier d'intervention, ce qu'on appelle un PPI, et pilote les opérations depuis une cellule de crise. Un périmètre d'interdiction de 500 mètres est établi autour de l'usine. Je répète, 500 mètres d'interdiction, le périmètre. Les principales voies d'accès à Rouen sont fermées, ainsi que le pont Flaubert, c'est un gros pont qui relie les deux rives de la Seine à Rouen. Les établissements par ailleurs qui accueillent des enfants, les crèches, les écoles, les collèges, les lycées, des 12 communes au nord de Rouen sont fermés. Enfin, des étudiants distribuent des masques chirurgicaux épuisant les stocks des pharmacies de la ville. On a vu des policiers qui étaient chargés de barrer les accès de l'usine emportés. Puis encore aujourd'hui, on voyait des journalistes de France 3 région qui ont porté dans leur bureau. Ils ont au final été évacués. Cette évacuation de France 3 Région, c'était aujourd'hui.
Rouen, donc, ville morte. Dans les rues désertes, on ne croise que quelques poignées de piétons pressés, écharpes ou foulards sur le visage, de vrais fantômes. Les commerces et les restaurants du centre-ville ont tiré leurs volets, les administrations, les musées, les piscines aussi. Contre l'avis de la préfecture, les transports se sont interrompus.
J'ai fait 7,5 km à pied pour rentrer chez moi, 1h30 dehors. Ce n'était pourtant pas le jour.
Aucune victime n'est à déplorer sur le site industriel du nouveau quartier Flaubert où travaillent quelques 400 employés. Mais à Rouen, l'émoi et l'inquiétude sont immenses. L'usine est en effet dite Seveso, seuil haut. Trois mots terrifiants qui signifient que, en raison du volume et de ses stocks de produits inflammables, Lubrizol est classée très dangereuse dans ce baromètre. Beaucoup de Rouennais et Rouennaises ont gardé en mémoire le souvenir d'un premier accident survenu à Lubrizol en 2013. Une fuite de gaz malodorant s'était fait sentir jusqu'en région parisienne et dans le sud de l'Angleterre. Lubrizol se croyait immunisé. 4 ans plus tard, en 2017, la direction régionale de l'environnement, de l'aménagement et du logement de Normandie, le DREAL, qui surveille ce type de site, avait en effet jugé le risque d'accident pouvant entraîner un incendie sur ces installations relativement faible. La fréquence y était estimée à une fois tous les 10 000 ans.
Tous les 10 000 ans, on répète donc. Le dernier accident remontait donc à 4 ans seulement. Dès jeudi matin, le discours du préfet de Normandie se veut rassurant. Bien sûr, monsieur le préfet. Au vu des premières analyses effectuées, aucune toxicité aiguë n'est détectée. C'est ce qu'assure donc le préfet de son petit nom, Pierre-André Durand.
Elles n'ont pas impliqué de mesures de confinement ou d'évacuation des populations.
C'est ce que dit le préfet.
Mais il est recommandé d'éviter les déplacements inutiles et de prendre des précautions particulières pour les personnes fragiles.
C'est ce qu'il redit.
Le risque de suraccident est maîtrisé.
Ça, c'est ce que dit le colonel Jean-Yves Lagalle, responsable des pompiers de Seine-Maritime.
Il ne faut pas rester sous le vent des fumées. La toxicité n'est pas aiguë, mais ces fumées sont toxiques, comme toute pollution. Le risque existe, mais il y a une dilution dans l'atmosphère, on le contrôle.
Bah super, hein, super, merci Jean-Yves, on est rassurés. Arrivé sur place vers midi, un autre champion de la communication, Christophe Castaner, ministre de l'Intérieur, tient à peu près les mêmes propos. On l'écoute.
La situation est maîtrisée. Les produits les plus dangereux ont été déplacés. Il n'y a pas de dangerosité particulière, même si l'inhalation des fumées présente en soi sa part de dangerosité. Il n'y a pas de risque avéré pour la population.
Ok, Christophe.
Grâce à un camion spécialisé de la Direction Générale de la Sécurité Civile appelé en renfort, une analyse plus fine des substances contenues dans le nuage de pollution est réalisée au fil de la journée. Les résultats confirment les premières analyses, explique le préfet, en début de soirée notamment, notant une absence d'hydrogène sulfuré, le fameux HS qui pue. Une seule valeur d'oxyde de soufre mesuré à des valeurs basses d'oxyde d'azote. Ce sont des substances carbonées classiques que l'on trouve toujours dans les fumées d'incendie, donc tout est normal, poursuit-il. L'analyse des retombées de suie, elle, prendra plus de temps. Plusieurs traces de pollution de la Seine sont déjà avérées, malgré la pose de barrières flottantes, mais l'eau du robinet est décrétée potable.
Alors voilà, en ce lendemain de décès de Jacques Chirac, les Rouennais et Rouennaises se sentent un peu abandonnés.
Vous avez des nouvelles de ce qui nous arrive ?
C'est ce que demande un brin ironique le gérant d'un restaurant du vieux Rouen et d'ajouter.
Non, parce que nous, depuis que Chirac est mort, on a zéro info. Il a éteint l'incendie.
Tout de suite, Parabellum, anarchie en Chiraki.
Hey! devenir libre et irréductible.
Canu Info.
Et invisible et disponible, libre et irréductible.
Attendu féministe.
Canu Info du vendredi. C'est ce mardi que s'est ouvert à l'Assemblée nationale le tant attendu débat sur la loi bioéthique. Un de ses nombreux enjeux, c'est de permettre enfin à chaque femme d'accéder à la maternité si elle le veut, qu'elle soit célibataire ou en couple, lesbienne, hétéro ou trans. Car il est temps de reconnaître la diversité des façons de faire famille et d'inscrire enfin dans la loi l'égalité entre toutes les familles, indépendamment de leur statut matrimonial, et entre tous les enfants, quel que soit leur mode de conception. C'est donc après un peu plus de 3 jours de discussion que les députés ont voté en première lecture ce vendredi 27 septembre l'article 1er du projet de loi sur la bioéthique qui prévoit donc d'étendre aux femmes célibataires et aux couples de lesbiennes l'accès aux techniques de procréation médicalement assistée, la PMA. 55 ont voté pour, 17 contre et 3 se sont abstenus. Bonne nouvelle donc, même si, attention, ça n'est que le début de la peut-être longue navette parlementaire. Et rien ne dit que cette atmosphère passera l'épreuve des articles suivants du texte, qui porteront notamment sur l'accès aux origines des personnes nées de dons et sur le mode d'établissement de la filiation des enfants de couples lesbiennes. Des sujets, là encore, éminemment sensibles. Affaire à suivre donc. Près de 2 ans après la déferlante du hashtag Balance ton porc sur les réseaux sociaux, Sandra Müller, l'initiatrice de ce hashtag emblématique, a été condamnée par le tribunal de Paris ce mercredi 25 septembre pour diffamation. Elle devra verser à Éric Brion, qu'elle accusait de harcèlement, 15 000 euros de dommages et intérêts. La journaliste a également été condamnée à lui verser en plus 5 000 euros au titre des frais de justice et à retirer le tweet litigieux. La défense systématique des violeurs et des agresseurs à l'heure actuelle, c'est bien l'attaque en diffamation. On pense à Denis Baupin, Johnny Depp, Bertrand Cantat, Tariq Ramadan et bien d'autres. Faut dire qu'ils auraient tort de s'en passer puisque ça marche, ils gagnent de la thune et perpétuent le musellement des femmes agressées. L'attaque en diffamation reste donc malheureusement une méthode de pression très efficace, empêchant les victimes de viol de libérer leurs paroles. Dans l'affaire Sandra Müller, le tribunal a souligné que la question des violences sous toutes les formes infligées aux femmes par des hommes constitue à l'évidence un sujet d'intérêt général. Pour autant, ils ont quand même estimé qu'en imputant à Éric Brion de l'avoir harcelé sexuellement, Sandra Müller avait tenu des propos diffamatoires, puisque le délit de harcèlement étant constitué par une répétition, une pression grave, et qu'elle ne pouvait bénéficier de l'excuse de bonne foi, n'ayant apporté ni base factuelle suffisante, ni preuve de la vérité de ses accusations. Tous les trucs un peu dégueux que je dis, c'est les juges qui le disent, j'ai pas précisé, mais c'est des citations du juge et du tribunal.
On avait compris.
Ouais, j'imagine, mais je précise. Pour les juges, Sandra Müller a, je cite, manqué de prudence dans son tweet, notamment en employant des termes virulents tels que « porc » pour qualifier le demandeur, l'assimilant dans ce contexte à Harvey Weinstein et « balance », l'exposant ainsi à la réprobation sociale. Elle a dépassé les limites admissibles de la liberté d'expression, ses propos dégénérant en attaque personnelle, a donc estimé le tribunal. Les juges ont souligné dans leur décision, je cite, « le retentissement exceptionnel mondial qu'ont eu ces 2 tweets et leurs conséquences pour Éric Brion, l'isolement social et la lourde dépression. Pauvre chouchou ». C'est vrai que pour les femmes harcelées, insultées, humiliées, violées, la tâche est facile et la dépression est loin. Si on avait inventé un système pour décourager les femmes de porter plainte pour viol, agression, harcèlement, on n'aurait pas fait mieux. Le but d'une sanction aussi lourde est certainement de la rendre insoutenable, mais aussi dissuasive pour beaucoup d'autres femmes. Alors, libérons la parole, mais pas trop quand même.
Canu Info du vendredi.
Car tu m'es cher, je ne compte pas, je ne compte plus. Comme tu m'éclaires au nucléaire, j'ai le ciel bleu. Tu me ramènes quand je déraille un jour sur deux.
Radio Canu 102.2.
Et
Et oui, rubrique nucléaire, je vais vous parler aujourd'hui d'une victoire relativement importante dans la lutte juridique contre le nucléaire. Mais avant de vous parler de cette victoire, je vais faire un petit retour en arrière du contexte. On est en décembre 2013 et à l'occasion de l'arrêt pour visite décennale de la centrale de Chinon, qui est en Indre-et-Loire, l'ASN, donc l'Agence de Sûreté Nucléaire, avait procédé à toute une série d'inspections sur le site qui ont fait état d'un grand nombre de dysfonctionnements. Donc, par exemple, c'est du type dalle en béton en train de s'effondrer, située au-dessus d'équipements cruciaux, non-respect des processus de consignation, bidons de produits chimiques stockés en dépit des règles sans que les intervenants puissent en identifier le contenu, précautions insuffisantes pour prévenir l'introduction d'objets non répertoriés dans les équipements, etc., etc. Et donc, qu'est-ce qui se passe ? Après cette inspection, le 3 avril 2014, donc le réseau Sortir du Nucléaire, qui est une association, donc, comme son nom l'indique, de lutte contre le nucléaire, a porté plainte contre EDF auprès du parquet de Tours pour toutes ces infractions. Donc, au règlement relatif aux installations nucléaires de base, au code de l'environnement, et au code du travail. Il y a une première audience qui a eu lieu en 2016, avec un rendu, donc ça c'était le 11 octobre 2016, avec le délibéré qui a été rendu le 6 décembre 2016. À la suite de ça, donc du coup, EDF et le directeur de la centrale ont été condamnés à payer respectivement 7 000 et 2 750 euros d'amende. Donc pour la mauvaise gestion, notamment des substances chimiques, etc. EDF fait appel. Donc l'audience a lieu en 2018, le 1er février, et l'arrêt est rendu le 28 mai 2018. Et là, donc les faits sont reconnus, mais EDF, et donc une personne qui s'appelle Clément Régis, qui était en charge de la gestion des substances chimiques, ont formé un pourvoi en cassation. Et donc l'audience de ce pourvoi en cassation a eu lieu le 25 juin 2019 et là il y a eu la décision qui a été rendue donc cette semaine. Et là, roulement de tambour, il y a eu une affaire assez importante puisque la Cour de cassation a rejeté le pourvoi d'EDF. Et cette décision est d'une grande portée pour l'action en justice donc, des associations, en ce qu'elle vient confirmer que la preuve des contraventions peut être apportée par tout moyen et pas seulement sur procès verbal de l'ASN. Parce qu'il faut savoir que EDF mettait des bâtons dans les roues à toutes les associations qui voulaient porter plainte contre toutes ces infractions, puisqu'ils estimaient qu'un rapport d'ASN n'était pas suffisant pour être un justificatif pour alimenter cette plainte. Et là, ça vient d'être confirmé que, justement, c'est bien un justificatif. Et elle confirme également que les textes réglementaires sont suffisamment clairs et précis pour être à la base des condamnations pénales et que les exploitants nucléaires sont les mieux placés pour bien en percevoir la portée. Enfin, le représentant de physique est relaxé d'une infraction, cela n'emporte pas nécessairement relax de la personne morale pour le compte de laquelle elle agit. Et donc, juste pour terminer sur cette magnifique victoire, je terminerai par un magnifique youpi.
Tout de suite sur les ondes de Radio Canu, il est 19h31, c'est les infos du vendredi et Kevin Morby va nous chanter Harlem River. On revient pour les infos dans un instant.
Talk to me. Tell me what you think about Harlem River. I'm in love, 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 love. Harlem River, talk to me. Where we headed now? Harlem River, I'm in love, 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 love. All because of you. In my pearl, in my diamond shoes,
I've climbed a cloud, now I've stole the moon, Harlem River. All because of you. Swallow me, put your hands around my neck. In Harlem River I can't breathe, they've got the lights down now. In Harlem River give me wings, put my head up in the clouds. In Harlem River all because, oh I'm nowhere now.
C'est Kevin Morby sur les ondes du 102.2, 19h33. Vous êtes avec les infos du vendredi sur Radio Canu. Dans un instant, on va vous parler de la lutte des femmes, de chambre, d'ici et d'ailleurs, notamment en région marseillaise. Et puis également de l'histoire de ces luttes domestiques. On passera également la revue de presse du week-end dernier, du début de semaine d'Olivier Minot, publié sur Dépêche, sur Arte Radio. Et si on a le temps, on passera un petit documentaire sur le jugement qui a actuellement lieu à Pau pour 3 militants qui ont été arrêtés pendant le dernier G7 à Biarritz.
Canu Info.
Partout, vous alliez le faire gagner parce que c'est notre projet. Vive la République! Vive la France!
Mouvements sociaux.
Mais notre règne arrivera quand votre règne finira.
Rien et personne ne pourra étouffer une révolte. Tu as semé la graine de la haine, donc tu la récoltes. Les rebelles et les rebuts ont tous opté pour le boycott. Faisons en sorte que les aisés nous lèchent les...
Depuis le 17 juillet, plus d'une vingtaine de femmes de chambre de l'hôtel Ibis Batignolles sont en grève illimitée pour protester contre leurs conditions de travail et pour la reconnaissance de leur dignité de travailleuse.
C'est ce qu'on a pu lire dans Libération.
On pense aussi aux femmes de chambre du NH Collection à Marseille qui ont repris le travail sans obtenir satisfaction après 167 jours de grève et à toutes les autres. Leur combat, qui rejoint plusieurs luttes récentes dans le secteur hôtelier, est plus largement celui de toutes ces travailleuses invisibles, parce que invisibilisées, qui quotidiennement prennent soin des autres quand la société, elle, se refuse à sécuriser leurs existences. Exigeant la fin de leur sous-traitance par STN, filiale du groupe Accor, les femmes de chambre de l'hôtel Ibis Batignolles demandent la revalorisation de leur salaire, l'arrêt des cadences infernales à 3 chambres et demie par heure et une indemnité nourriture de 7,24 €. Dans ce secteur du nettoyage, a priori peu propice à la contestation collective, marquée par la précarité des statuts professionnels et le travail atomisé des salariés, leur combat nous rappelle que les femmes au travail, aussi isolées et fragilisées soient-elles, ont toujours lutté. Mais encore faut-il pouvoir les voir, les entendre et conserver les traces de ces luttes pour les sauver de l'immense condescendance de la postérité, mise en lumière par un historien de la classe ouvrière anglaise. Les domestiques ont participé aux mobilisations populaires et ouvrières de la fin du 19e et du début du 20e. Une des premières actions syndicales répertoriées des gens de maison, dirigées par des valets et maîtres d'hôtel, date de 1885. On retrouve également une importante proportion de domestiques parmi les communards. Pourtant, ces hommes et surtout ces femmes sont demeurés à l'écart des mémoires insurrectionnelles du passé. La grève de l'hôtel Ibis Batignolles n'est donc pas un phénomène inédit. Elle est l'une de ces effractions ponctuelles, mais récurrentes depuis plus d'un siècle. Les femmes qui la mènent avec détermination sont les héritières d'une tradition émeutière et contestataire dont elles viennent réactualiser les répertoires d'action et les enjeux. À cet égard, il est essentiel d'apprécier la dimension féministe du combat mené par les salariés de STN, qui dénoncent également l'agression sexuelle de l'une de leurs collègues en avril 2017 par le directeur de l'époque. Malgré la plainte déposée il y a 2 ans, aucun jugement n'a été rendu. Les grévistes évoquent un droit de cuissage et des pratiques de harcèlement facilitées par leurs conditions de travail dans le secret des chambres d'hôtel. Là encore, il convient de rappeler que ce sont les femmes des classes populaires qui ont été les premières à dénoncer et à lutter contre les violences sexuelles au travail. La grève des ouvrières de l'usine de porcelaine Havilland à Limoges en 1905, qui a pour origine le harcèlement sexuel exercé par un contremaître, est l'un des premiers mouvements d'ampleur qui fait des violences sexuelles un terrain de lutte sociale et féministe. La lutte des femmes de chambre de l'hôtel Ibis Batignolles témoigne également d'un processus historique plus ample, celui de l'avènement d'un prolétariat de service très largement féminin et racisé. Symbole de la mondialisation du marché du service à la personne de ces dernières décennies, ces nouvelles prolétaires de la domesticité sont aussi les actrices de l'histoire longue de la division sexuée du travail, qui fait peser sur les femmes l'essentiel du travail domestique, qu'il soit gratuit ou rémunéré. À cela s'ajoute ce que les historiennes de la domesticité ont appelé la « domestique révolution », des sociétés industrielles au tournant du XVIIIe et du XIXe. C'est à cette époque que la main-d'œuvre domestique se féminise. Le travail domestique étant de plus en plus pensé comme une activité féminine, c'est aussi à cette époque qu'elle se prolétarise. Les tâches les plus élevées, comme le secrétariat ou la comptabilité, étant dorénavant externalisées, c'est enfin à cette époque que le recrutement des domestiques change d'échelle et fait traverser les frontières à celles qui n'ont souvent d'autres options pour s'inscrire sur leur marché du travail. Essentielles à la prise en charge des besoins vitaux et au bien-être des sociétés européennes, ces femmes restent jusqu'à aujourd'hui les petites mains oubliées du système. « Je veux défendre les femmes de chambre », a annoncé la secrétaire d'État à l'égalité hommes-femmes Marlène Schiappa le 22 juin. Mais ces femmes savent lutter par et pour elles-mêmes. Ce qu'il faut, c'est prendre leurs paroles et leurs revendications au sérieux, les soutenir et créer les conditions de possibilité de leur reconnaissance et de leur valorisation dans la société.
C'était donc un article que vous pourrez retrouver de manière un peu plus longue sur Libération, qui publie parfois des articles de fond intéressants, tout comme Arte Radio, qui publie plus souvent des productions intéressantes et joyeuses pour vos oreilles, notamment tous les mercredis, c'est Dépêche d'Olivier Minot. On vous passe celle de ce mercredi qui revient sur l'actualité de ce week-end et de ce début de semaine.
Qu'est-ce que vous pensez, vous, de la réforme des retraites ?
J'en ai aucune idée, je connais pas.
Mais pourtant, c'est la grande manif pour les retraites, là.
Non, c'est pas la manif pour le climat.
Moi, je fais un sujet sur les retraites. Tu peux dire que c'est la grande manif pour les...
Okay. Ouais.
Donc, c'est la grande manif pour les retraites ?
Oui. Pour soutenir les vieux, ils ont du mal.
T'as envie d'être à la retraite ?
Grave. J'en peux plus d'être vivante, enfin, d'être à l'école.
Salut, c'est Livo et je découpe les journaux avec des grenades lacrymo. Alors samedi, j'étais à Paris. Je me baladais tranquille le long du boulevard Saint-Michel. Et là, je me suis retrouvé complètement compressé dans une foule. Pendant 10 minutes, on maîtrisait plus rien. Fallait pas être claustro. On regardait juste en l'air pour éviter de se prendre des grenades sur la tête.
Le Monde, 24 septembre. Les Gilets jaunes voulaient faire de ce samedi une journée historique. Ils n'auront guère pu structurer de cortège indépendant, empêchés notamment de rejoindre les Champs-Élysées par un important dispositif policier. Mais ils ont néanmoins pu défiler avec les marcheurs pour le climat. Libération, 23 septembre. C'est une foule hétéroclite qui se retrouve aux abords du jardin du Luxembourg en début de samedi après-midi. Militants écologistes, altermondialistes, citoyens venus en famille...
Non mais sérieux quoi ! Ils sont sérieux quoi !
Mais aussi des gilets jaunes ainsi que des militants radicaux. Les vitrines sont défoncées à coups de trottinettes électriques, des scooters incendiés et des cordons de CRS et gendarmes mobiles caillassés. Ces derniers répondent sans faire de détails.
Il y a un mec qui est complètement en sang là.
Voyant le boulevard Saint-Michel sous un nuage de gaz lacrymogène.
Je suis au milieu d'une foule, il y a un mec qui vient de tomber par terre. Faire malaise. Tout le monde essaye de fuir les lacrymos, mais elles sont partout.
C'était pourtant une belle journée ensoleillée, hein. Idéal pour flâner en terrasse en attendant la fin du monde.
Ferme les yeux, c'est du maloc. Tu touches pas, t'attends un peu.
Merci.
Sur l'agence de la Banque Populaire qui a été cassée.
Mais c'est honteux de lancer des gaz comme ça sur les gens.
Ils ont marqué « Aucune banque n'est populaire ».
C'est la conception qu'ils ont de l'écologie dans ce putain de gouvernement. C'est de taper sur des femmes, des enfants, des infirmes, etc. Et gazer, tout ça pour 0,1% d'oligarques. Bravo, la planète s'en souviendra, mais nous aussi, un jour vous serez jugés.
Alors qu'est-ce qu'on dit de tout ça dans le Parisien de lundi, là ?
À bord de l'avion présidentiel, notre journaliste a recueilli les confidences du chef de l'État avant le sommet spécial sur le climat à l'ONU.
On peut prendre l'avion présidentiel quand on est journaliste parisien, je savais pas.
Comment perçoit-il ces jeunes qui manifestent tous les vendredis pour le climat ? Qu'ils aillent manifester en Pologne, tempête Emmanuel Macron. C'est la Pologne qui bloque tout.
La Pologne.
Un problème avec l'Union Européenne.
La Pologne.
Un problème avec votre plombier.
Polonais.
Un problème avec les manifestations climatiques des jeunes.
Polonais.
Vous aussi, comme le président Macron, adoptez la stratégie polonaise.
Stratégie polonaise.
Avec la stratégie polonaise, si vous avez un problème, accusez les Polacs.
Moi je suis à moitié polonais, donc il faut pas me faire chier avec ça, ok ?
Et pendant ce temps-là,
Le Monde, 25 septembre,
à New York,
Greta Thunberg, invitée à parler à l'ouverture du sommet exceptionnel des Nations Unies sur le climat.
This is all wrong.
Ce qui se passe, c'est trop la latche.
I shouldn't be up here.
Moi, j'ai le seum.
I should be back in school, on the other
j'ai dû sécher
side of the
les
ocean.
Cours et j'ai dû venir en bateau stop.
You have stolen my dreams,
t'as volé mes tripes
my childhood,
et ma life
with your empty words.
Avec tous tes mythos.
Yet,
et pourtant,
I'm one of the lucky ones.
J'ai trop de la chance, j'avoue.
People are suffering.
Parce qu'il y a des gens qui
People
galèrent. Il y en a qui sont dead.
Entire ecosystems
la nature,
are
elle est trop dans le bad, frère.
We are in the beginning of a mass
c'est
extinction.
Le début de la fin, voilà. Et toi, tu fais quoi ? Tu parles business, croissance. Non mais t'es sérieux là ? Tu m'as trop fané.
Alain Finkielkraut, nous avons mieux à faire
France Inter.
Pour sauver ce qui peut l'être de la beauté du monde
2019
que de nous mettre au garde à vous devant Greta Thunberg et d'écouter les abstraites sommations de la parole puérile. Et il est clair qu'une enfant de 16 ans est évidemment malléable et influençable. Polanski n'est pas
France Inter,
pédophile.
2009.
Sa victime n'était pas une fillette, une petite fille, une enfant au moment des faits. C'était pas une fillette.
France Inter.
Une enfant de 16 ans, malléable. 13 ans. C'était pas une fillette.
And if you choose to fail us,
t'as choisi de me défoncer,
I say,
alors
we will never forgive you.
Je t'oublierai pas, connard.
Libération, 21 septembre. Délesté de plusieurs centaines de manifestants, le cortège pour le climat s'élance à nouveau sur le boulevard Saint-Michel au rythme de la techno balancée par la sono du camion Give a Fuck. Ça danse toujours malgré la pluie de lacrymo.
C'est un mouvement où en gros on est tous, c'est tous les collectifs de la nuit parisienne qui sont réunis pour montrer que bah, en fait, dans notre diversité on peut être unis pour une même cause et qui est celle de l'urgence climatique tout simplement. Que toute l'énergie qu'on a, qu'on génère avec la nuit, et bah, elle peut être mise à contribution d'une cause. Et c'est la planète. C'est une bonne cause. Pas de planète, pas de fête. Pas de planète, pas de fête.
Voilà, c'était Dépêche en direct de la manif sous les lacrymos. On se retrouve la semaine prochaine sur Arte Radio. En attendant, ici, ça continue de sauver la planète en dansant sur de la techno et visiblement
certaines personnes voulaient créer la Jérusalem céleste là où j'habite.
Il y en a qui ont un peu abusé de produits.
En faisant l'alimentation avec des jaunes, des noirs, des blancs, tout ça. Mais moi ça m'intéressait pas, j'étais plus axé sur le travail intellectuel. Alors voilà, donc on pouvait pas s'entendre.
Arte.
Alors j'ai qu'une idée, c'est d'aller en province, quoi.
Radio.
Et créer quelque chose.
Radio.
Genre.
Canu, il est 19h46 et ce vendredi 27 septembre se tenait au tribunal de Pau le procès en appel de trois jeunes Allemands qui ont été arrêtés puis condamnés peu avant l'ouverture du sommet du G7. C'était à Biarritz fin août, on vous en a parlé à ce micro. Leurs avocats et leurs familles clament leur innocence, ils dénoncent une sanction prononcée dans un climat de zèle sécuritaire. Alors on vous le dit tout de suite, on n'a pas les résultats de cette audience, on ne les a pas trouvés en tout cas sur internet avant de prendre l'antenne à 19h. On vous rappelle juste ce qui s'est passé, c'était mercredi 21 août 2019 à un péage autoroutier de Biarritz. Les trois jeunes Allemands étaient en route vers le camping espagnol où les attendaient leurs amis. Ils ont entre 18 et 22 ans et à ce moment-là, donc au péage, ils sont contrôlés par des gendarmes. On est donc à ce moment-là quelques jours de l'ouverture du G7, le sommet des 7 premières puissances mondiales.
et une réquisition nationale du procureur de la République permet aux policiers de contrôler tous les véhicules sans avoir à donner de justification particulière. On rappelle que pendant le G7, donc fin août 2019, il y avait quand même 13 200 policiers et gendarmes qui étaient mobilisés dans la région de Biarritz, tout autour donc du Pays Basque. Ce vendredi, c'est donc aujourd'hui, un groupe de soutien a organisé une manifestation devant le tribunal pour alerter la presse sur cette situation. On les a donc entendus. Radio Parleur aussi. On vous passe donc un entretien reportage qui a été fait à cette occasion par les gens de Radio Parleur.
Écoutez-nous sur radioparleur.net.
Bonjour. Entretien de contrôle de police.
C'est une accréditation de presse, des appareils photo. Oui.
Rien de dangereux sur vous ?
Non.
Je vous donne d'abord ma carte de presse.
Là, ce que vous entendez, c'est l'un des multiples contrôles de police subis par les journalistes de Radio Parleur entre le 19 et le 26 août dernier. Nous sommes à Biarritz, où est organisé le G7, réunion des 7 dirigeants des pays industrialisés. Un contre-sommet est aussi organisé par plusieurs ONG, plus de 13 000 policiers sont mobilisés et une grande partie du Pays Basque est transformée en forteresse. Après le sommet, l'association Amnesty International dénonce des rassemblements empêchés et plus d'une centaine de personnes arrêtées. Un climat sécuritaire que Sébastien Bailleul, délégué général du CRID, l'une des structures qui organisait ce contre-sommet, dénonçait fin août à notre micro.
Pour nous, c'est inacceptable d'avoir toutes ces arrestations, quelles qu'elles soient, quand elles ne sont pas justifiées. De plus en plus, on s'attaque à l'état de droit. Et ce sommet, il en est l'illustration. Quoi.
Pour les journalistes de Radio Parleur, les très nombreux contrôles ont surtout été une perte de temps dans notre travail. Pour d'autres, cela a été bien plus loin. C'est le cas de trois jeunes Allemands. Mercredi 21 août, trois jours avant le sommet du G7, leur voiture est contrôlée au péage autoroutier de Biarritz. Les trois Allemands affirment être en route pour des vacances en Espagne. Problème, l'un d'entre eux découvre qu'il est interdit de territoire français. Dans la voiture, les fonctionnaires trouvent un brise-vitre, un spray au poivre, des gants de boxe, des coquilles de protection pour hommes, des autocollants de l'extrême gauche allemande et un ouvrage sur les stratégies de violence internationale. Les trois jeunes hommes sont placés en garde à vue, puis passent au tribunal le 24 août dernier. Ils sont condamnés par le tribunal de Bayonne à 2 et 3 mois de prison ferme. Leur délit, participation à un groupement en vue de commettre des violences. Un enchaînement judiciaire que leurs parents n'ont pu suivre que de loin, depuis l'Allemagne, sans pouvoir s'organiser pour défendre leurs enfants. La mère de l'un des prévenus, ainsi que Peter, l'un des membres du comité de soutien de ces jeunes Allemands, nous raconte comment ils vivent cette affaire.
Alors j'ai d'abord appris que mes fils voulaient partir en Espagne en vacances à travers le Pays Basque. Ils sont donc partis en vacances et j'ai reçu un appel d'un de mes fils, le plus jeune, qu'une voiture n'était pas arrivée au lieu de camping. On a donc cherché de suite à savoir si un accident avait eu lieu. Et ensuite, mon autre fils, donc celui qui ne s'est pas fait arrêter, est allé voir la police en Espagne. Il nous a finalement appris que les trois de la voiture avaient été arrêtés à Biarritz. Et donc, nous n'avions pas plus d'informations. Nous étions inquiets. On a tout de suite pris contact avec l'ambassade allemande, qui malheureusement ne nous a pas donné de renseignements supplémentaires et ne savait rien de cette arrestation. C'est en fait la seule information que nous avons reçue de l'ambassade. Ils ne savent rien d'une arrestation de trois citoyens allemands. Le samedi 24 août, dans la presse, sur Internet, des informations sont arrivées sur le fait que trois Allemands ont été arrêtés et condamnés rapidement à 2 ou 3 mois de prison. Mais le week-end, nous n'avions pas reçu plus d'informations. Le lundi, nous avons continué à chercher des contacts, mais nous n'avions pas de téléphone là-bas et aucune personne précise pouvant nous aider à retrouver notre fils.
Selon la lettre ouverte que vous avez publiée dans plusieurs médias indépendants, ces jeunes se rendaient en Espagne pour des vacances au camping. Ils ne voulaient donc pas participer au contre-sommet du G7.
Je veux dire qu'ils ont été arrêtés 4 jours avant le début du G7. Et ils voulaient, comme on l'a dit, aller en Espagne pour les vacances. Mais à la place, ils ont été arrêtés par l'État français pour un motif vague. La police, les services secrets et l'administration allemande, ils ont tous transmis des listes d'activistes de gauche à la France pour ce sommet. C'est à cause de ces listes que nos 3 amis ont été arrêtés. Leur arrestation est donc issue d'un jugement politique fondé sur des listes transmises par l'Allemagne. Cela veut dire aussi que l'État français a arrêté 3 jeunes qui partaient simplement en vacances pour appliquer des mesures de sécurité exagérées et rendre toute arrestation justifiée par ces listes.
Quelle est la situation actuelle de vos enfants? Dans quelle prison sont-ils incarcérés? Avez-vous pu les contacter? Est-ce que vous avez pu leur rendre visite et savez-vous comment ils vont?
Non, nous n'avons pour l'instant toujours pas eu de contact téléphonique, pas d'appel reçu de la part de notre fils depuis 3 semaines. Nous avons reçu des lettres, comme les 2 autres familles, mais pas d'appel. Il a aussi été très difficile pour nos enfants de désigner des avocats différents de celui du début. C'est très difficile pour les avocats de travailler là-bas et d'avancer. C'est vraiment très difficile. En tant que mère, je voudrais aussi dire que dans un état de droit, je suis très déçue. Je pensais que mon fils, voyageant dans l'espace européen étranger, serait en sécurité. Et je n'ai jamais calculé ou imaginé qu'en partant en Espagne, il serait arrêté en France, alors qu'il n'a rien fait de mal. C'est vraiment une situation horrible. Nous ne savons rien, nous nous inquiétons beaucoup. C'est une situation exceptionnelle. Mais je dois aller au-delà de la consternation personnelle que je ressens en tant que mère. Mais je ressens aussi beaucoup de colère face à la situation et le fait de ne pas pouvoir faire grand-chose, de savoir qu'elle est en France ne changera pas grand-chose, de ne pas pouvoir tous se rencontrer et s'organiser. Tout cela me met très en colère et d'une façon très forte par rapport à l'état de droit de l'Europe et de la France en particulier.
Le vendredi 27 septembre aura lieu le procès en appel de ces 3 jeunes Allemands. Que réclamez-vous à la justice française? Des excuses? Une relaxe?
Je vais voyager là-bas avec mon mari et le petit frère. Et les autres parents seront aussi là au procès. Je souhaite une relaxe absolue car mon fils n'a rien fait pour être ainsi condamné. C'est pour moi personnellement une catastrophe. Et si l'on ne peut pas rentrer tous ensemble à la maison, ce sera un effondrement.
La défense de ces jeunes Allemands va pointer plusieurs incohérences dans la procédure. Les objets saisis n'ont par exemple pas été mis sous scellé par les policiers. Une enquête ficelée à la va-vite et qui traduit le climat sécuritaire actuel, estime Maître Arié Halimi, c'est l'avocat de l'un des prévenus.
En gros, on les a poursuivis pour d'abord port d'armes, mais cette infraction a été abandonnée parce que les choses qui ont été trouvées dans leur coffre n'ont pas été placées sous scellé, donc on ne pouvait plus les utiliser comme preuve. Et par ailleurs, pour groupement en vue de commettre des infractions ou des violences, infraction qui est de plus en plus utilisée dans le cadre des mouvements sociaux, dans le cadre des manifestations, pour interpeller des gens en amont, avant la manifestation ou pendant la manifestation, alors même qu'aucun acte ou aucune violence n'a été commise, en considérant que les éléments qui se retrouvent sur eux, sur leur visage, dans leur poche, dans leur coffre de voiture, pourraient servir à commettre des violences. Et c'est la raison pour laquelle on appelle ça une infraction Minority Report, hein, du nom du film américain, où l'on voit une justice qui ne sanctionne plus des actes, mais des probables intentions qui sont évaluées par la justice.
Cette méthode que vous décrivez, elle a déjà été appliquée à Hambourg en 2018 pour le G20. Elle est appliquée de plus en plus. Est-ce que maintenant on doit s'attendre à que chaque grand rassemblement de mouvements sociaux ou autres, on retrouve cette méthode de détention préventive de militants ou même de personnes qui passent juste par là mais qui pourraient avoir une acquaintance avec ces milieux?
Oui, pas que dans les G7 ou G20. Hein. Là, on est dans une stratégie globale du ministère de l'Intérieur et de la Justice, globalement, hein, qui est de faire la détention préventive, de faire des interpellations massives. On le voit de plus en plus. On l'a encore vu samedi dernier. Le but étant de ficher le maximum de personnes. L'idée étant clairement de porter atteinte par la voie judiciaire, par la voie de l'interpellation, au droit de manifester, quand bien même il n'y aurait pas d'infraction ou de violence qui serait commise. On est dans une atteinte délibérée à un droit fondamental. Il y a un jeu un peu délétère qui est joué là entre le ministère de l'Intérieur, qui stigmatise ce qu'ils appellent des black blocs pour essayer de justifier l'interruption des manifestations. Il n'y a pas grand monde qui est dupe de la réalité, de la volonté du gouvernement d'empêcher ces manifestations. Le gouvernement se cherche sa stratégie la plus efficace. Et c'est dans ce cadre-là que les bornes de la légalité sont franchies par les autorités. Ces trois personnes ont été condamnées en comparution immédiate à de la prison ferme, avec mandat de dépôt immédiat. Ça veut dire que, à la fin de l'audience, ils ont été immédiatement envoyés en prison, pour deux d'entre eux à 3 mois de prison ferme, et pour l'un d'entre eux à 2 mois de prison ferme. On est dans le registre de l'efficacité et certainement pas dans le registre de l'équilibre ou de l'harmonie.
Si différents éléments laissent donc à penser que les trois jeunes Allemands sont proches des courants politiques de la gauche, rien ne prouve leur intention de se rendre au G7.
Gagne
l'info
du vendredi. Qu'est-ce que ça veut dire,
ACAB ? Radio Canu, la radio la plus brillante.
Eh ben, Margot, cette semaine, le ACAB, ça veut dire, avec Chirac, à du brouillard, et pas n'importe quel brouillard, puisqu'il s'agit du brouillard qui se répand doucement, mais sûrement, à Rouen.
Donc, voilà. Alors, bon week-end à Lyon, bon week-end également sur les ondes du 102.2 et partout ailleurs en streaming sur le site internet. En attendant, il est 20h02, c'est l'heure de Noise Pollution, un Noise Pollution un peu spécial puisque ce soir vous aurez droit à 4 heures de métal. Attention les oreilles.